a dream.
It's one small step for man, one giant leap for mankind.
Une Amérique qui est maintenant multiculturelle, multiforme.
One nation under God.
Bonsoir à tous, Morgane Guerriec en votre compagnie. Bienvenue dans l'Amérique et vous. Ce soir, nous faisons le point sur le sommet de Hanoï et le nucléaire nord-coréen. Kim Jong-un et Donald Trump se rencontraient cette semaine dans la capitale vietnamienne pour tenter de s'entendre sur l'épineux dossier de la dénucléarisation de la Corée du Nord. Mais ce second sommet s'est achevé sans déclaration commune. Quel bilan peut-on dresser de cette rencontre ? Nous attendons vos questions. Pour participer, appelez le 001 202 205 26 33. Et pour ceux qui ont laissé leur numéro sur la page Facebook de VO Afrique, nous commençons dès maintenant à vous appeler. J'accueille mes invités, Herman Cohen, ancien ambassadeur et ancien secrétaire d'État américain aux affaires africaines, et Emilio Viano, professeur de sciences politiques à American University, ici à Washington. Alors, les deux camps se séparent sans la déclaration conjointe initialement prévue. Herman Cohen, peut-on parler d'un échec ?
Non, je ne crois pas qu'on peut parler d'un échec. Je crois qu'ils ont fait des petits pas en avance pour un accord total, mais ça va prendre du temps et chacun a fait des concessions, à mon avis.
Des petits pas sur à quel niveau?
C'est-à-dire, tous les deux ont abandonné leur demande de début. Par exemple, l'Amérique a demandé un abandon total de leur programme nucléaire, qui n'est pas possible parce qu'il y a des éléments possibles. Et la Corée du Nord a demandé que l'Amérique abandonne des échanges militaires avec Corée du Sud. Cette demande n'existe plus. Donc, petit à petit, vers des choses modérées, à mon avis.
Emilio Viano, est-ce que vous êtes d'accord avec ce point de vue d'Herman Cohen?
Non, je ne suis pas vraiment d'accord. Je pense que là a été un échec phénoménal, et même le président l'a admis en réalité. Et je pense qu'il se doit au fait que le président est vraiment naïf. Il y avait une absence de préparation à long terme. En général, dans ces cas, les spécialistes des ministères des Affaires étrangères, comme monsieur l'ambassadeur qui est ici avec nous, ou de la Défense, travaillent d'arrache-pied pour parvenir à un accord aussi détaillé que possible, de sorte que les présidents se réunissent principalement pour une célébration de l'accord, une cérémonie de signature, une déclaration de réussite. Et en raison de la confiance excessive en soi de Trump en tant que négociateur, en tant que faiseur de marché imparable, capable de résoudre toute situation à sa faveur, il n'a pas permis que le processus se déroule normalement. Autrement dit, il n'y a pas eu de négociation prolongée en suite récente. Il y entra sans y être préparé, pensant que l'improvisation conduirait au succès, mais s'effondrant dans le détail, comme par exemple ce que signifie la dénucléarisation pour Kim Jong-un contre les Américains. En ce qui concerne Kim Jong-un, cela signifiait que les Américains aussi devaient, par exemple, retirer leur parapluie nucléaire protégeant la Corée du Sud, réduire ou éliminer leurs troupes en Corée du Sud, le matériel, les bateaux, les porte-avions. Et pour la Corée du Nord, ils ont proposé de démanteler une ancienne usine d'armes nucléaires de la centrale de Yongbyon, qui n'a pas vraiment plus beaucoup de valeur. Il semblait déjà l'avoir bombardée après Singapour, mais ce n'était que l'entrée du tunnel. Ainsi que c'est un comportement qui découle d'une maison blanche dès le commencement, caractérisée par un climat de peur, d'incompétence, d'hostilité envers le fait. Vous vous rappellerez des fameux faits alternatifs de Kellyanne Conway. Une maison blanche vraiment pas prête à courir le monde.
Est-ce que vous avez été surpris par l'issue de ce sommet?
Non, je n'ai pas été surpris parce qu'il n'y a pas eu de préparation. Comme vous savez, il n'y a pas de représentant permanent de la Corée du Nord. Il n'y avait pas jusqu'à janvier passé. Et de janvier à maintenant, le représentant ne peut pas se préparer. Il faut beaucoup de temps pour ces négociations entre sous-traitantes, pour développer un accord qu'on peut firmer avec beaucoup de cérémonies. Il n'est pas surprenant. C'était, si vous voulez, vraiment cette extrême personnalisation des négociations entre les États-Unis et la Corée du Sud, qui naturellement, selon Trump, était considéré comme le socle d'une dynamique inédite. Mais, en ma opinion, a peut-être été la raison principale de l'échec constaté à Hanoï, parce que Donald Trump et Kim Jong-un se sont séparés sans être parvenus à s'entendre sur la moindre déclaration commune. Et ça, c'est vraiment un échec très, très profond.
Alors, l'agence officielle nord-coréenne a souligné que Donald Trump et Kim Jong-un avaient eu des échanges très constructifs et francs. De même, le président américain affirme que ses relations avec le leader nord-coréen restent très bonnes. Herman Cohen, que pensez-vous de ces déclarations? Est-ce qu'elles reflètent la réalité?
Non, je crois que les déclarations étaient réalistes, très constructives. Je crois que c'est le leader de Corée du Nord qui a fait une erreur dans cette réunion au sommet. Il a vu que le président Trump a des difficultés politiques à l'intérieur des États-Unis. Donc, il croyait qu'il pouvait faire une très grande demande, enlever toutes les sanctions. Et il croyait que le président Trump avait tellement besoin d'un accord qu'il devait donner cette concession. Mais il a fait une bêtise là-dedans. Mais quand même, je crois qu'ils ont entamé par des petits pas un chemin pour arriver à une bonne conclusion. Une autre erreur, c'est de commencer une négociation très détaillée et très difficile au sommet. On ne commence jamais une négociation comme ça au sommet. Il faut commencer au niveau des diplomates, des militaires, etc. Mais maintenant, ils vont revenir au commencement et ils vont avoir cette négociation au niveau plus bas. Et à mon avis, ils vont arriver parce que tous les deux ont besoin d'un accord. La Corée du Nord a besoin d'une relance économique. Le pays est tellement pauvre, les gens crèvent de faim. Et l'Amérique a besoin d'éliminer cette menace avec des missiles qui peuvent arriver sur la côte ouest des États-Unis.
Alors justement, est-ce que jusqu'à quel point est-ce que cette menace est réelle? Est-ce que vous pensez vraiment que Pyongyang pourrait mener une attaque nucléaire, sachant qu'il y aurait quand même de sacrées répercussions?
Oui, selon les renseignements, je n'ai pas de renseignements de l'intérieur de la CIA, etc. Mais selon ce que j'ai vu dans les journaux, ils ont un missile qui peut avoir un bombe nucléaire qui peut arriver dans la région de Seattle ou Los Angeles. Ça, c'est déjà prouvé, à mon avis.
Alors, Donald Trump dit que Pyongyang exige la levée de toutes les sanctions qui lui sont imposées du fait de ses programmes nucléaires et balistiques, ce que Pyongyang dément. Alors, Herman Cohen, comment comprendre ces déclarations contradictoires? Est-ce qu'il y a un camp qui n'assume pas ses positions?
Moi, j'ai entendu ce que le président Trump a dit. Il a dit j'ai été obligé de quitter la table parce que Kim Jong-un a demandé que nous enlevions toutes les sanctions. Donc, je crois à mon président des États-Unis au lieu du président de Corée du Nord. Et vous savez, la Corée du Nord est un pays totalitaire où la vérité n'arrive pas souvent.
Alors, on va prendre peut-être un auditeur, voir s'il y a une question. On a au bout du fil Ben Benoît de la RDC. Bonsoir Ben Benoît.
Oui, bonsoir à la Véronique et bonsoir à tous nos invités.
Alors Ben Benoît, est-ce que vous avez une question pour nos analystes?
Oui, non, je pose que deux questions. J'ai des questions à poser à nos analystes. Oui. La première, de savoir, est-ce que réellement, par rapport à des stratégies que Donald Trump est en train de prendre, il ne pense pas que Kim Jong-un est plus dangereux et plus malin de plus qu'un serpent. Et c'est tout ce qu'il est en train de faire, c'est juste pour voir clair sur la marmite de Donald Trump et à des fois changer la vision. Et ça risque aussi de percuter de plus sur les États-Unis, comme c'était du temps du 11 septembre. Ça, c'est le premier des questions. Deuxième, de savoir quelle stratégie dont le chef de l'État américain est en train de prendre pour abrouiller ou soit mettre fin au système nucléaire dans les mondes.
Ah, alors peut-être la deuxième question, Herman Cohen, hein, quelle est la stratégie des États-Unis pour mettre fin au nucléaire dans le monde ?
Oh, les États-Unis est toujours prêt à avoir des négociations sur la réduction des armes nucléaires. Malheureusement, ils viennent de quitter un accord avec la Russie sur les missiles intermédiaires, qui est une grande erreur. À mon avis, ils ont accusé les Russes d'avoir triché. Mais le gouvernement des États-Unis, n'importe quel gouvernement, démocrate ou républicain, est toujours prêt à négocier la réduction des armes nucléaires. Et bien sûr, le plus important à blesser est la Russie. Mais pour le moment, tout est à point mort, à mon avis. M. Poutine n'a pas l'air de vouloir continuer à négocier. Et président Trump, malgré le fait qu'il est un ami de Poutine, notre gouvernement n'est pas prêt à être très gentil avec la Russie en ce moment.
Alors, la Corée du Nord demande une levée totale, selon Trump, ou partielle des sanctions. Emilio Viano, est-ce que cette proposition vous semble raisonnable ?
Il ne semble pas raisonnable, naturellement, parce qu'ils n'ont pratiquement fait rien pour détenir le développement des armes atomiques, n'est-ce pas? Oui, c'est vrai, ils n'ont pas fait de lancement de missiles vers le Japon, ou la Corée du Sud, ou Guam, ou même les États-Unis. Mais en ce qui se réfère aux installations nucléaires de la Corée du Nord, non, il n'y a eu rien. Il parle toujours de cette centrale de Yongbyon, mais c'est une centrale assez vieille. On a déjà eu une explosion, mais c'était seulement à l'entrée du tunnel. Et ils n'ont pas vraiment cessé. Au contraire, les services d'intelligence américains ont démontré qu'ils ont continué et même augmenté la production des armes atomiques.
Qu'est-ce qu'on pourrait mettre sur la table des négociations, les deux camps, qu'est-ce qu'ils pourraient mettre sur la table des négociations pour arriver à un accord ? Sur quoi est-ce qu'il faudrait céder ?
C'est plus question de, premièrement, s'entendre, c'est-à-dire d'avoir une terminologie en commun. Comme, qu'est-ce que signifie la désnucléarisation en ce qui se réfère à la Corée du Sud ou aux États-Unis vers la Corée du Nord? Qu'est-ce que signifie que lever les sanctions économiques? C'est tout à fait complètement, comme on dit que la Corée du Nord espérait, ou partiellement. C'est ça qui n'existe pas, parce que, comme j'ai dit, et aussi M. l'ambassadeur l'a dit très bien aussi, il n'y a pas eu un travail du fond. Il n'y a pas eu un travail de diplomate pendant peut-être des semaines, des mois, pour s'entendre, pour créer un langage commun, pour avoir des définitions qui sont les mêmes. Et ça, c'est l'entrave qu'il a passé maintenant dans cette rencontre en Hanoï.
Herman Cohen, je vous pose la même question. Vous avez dit qu'on a déjà quelques petits pas, c'est pas mal. D'après vous, qu'est-ce qui pourrait être fait pour franchement aboutir à un accord ?
Pour commencer,
je crois que la fermeture de cette centrale à Yongbyon, comme mon collègue le professeur a dit, c'est moins important qu'avant. Mais en échange de fermer cette centrale, je crois que l'Amérique peut ouvrir un bureau à Pyongyang avec des diplomates. Et ça donne ça fait un grand geste vers Kim Jong-un parce que ça reconnaîtra qu'il est un chef d'État légitime et que son pays est légitime. Et nous n'avons pas l'intention de changer le régime ou d'éliminer Corée du Nord comme pays. Donc, si on peut commencer avec des petits gestes comme ça, et après tourner vers les négociateurs professionnels pour faire petit à petit chaque étape, n'est-ce pas? Vous éliminez ça, vous nous donnez une liste de toutes les facilités que vous avez qui sont nucléaires et avec vos missiles, et nous allons faire des gestes économiques. Nous allons investir dans les zones économiques avec des usines, etc. Et comme ça, sur une période de mois et peut-être même 2-3 années, on peut arriver à une solution.
D'accord. Alors, on va prendre un autre auditeur. Il s'agit de Hassan Omar qui est à Djibouti. Bonsoir, Hassan.
Bonsoir et bonsoir à vous, auditeurs, et bonsoir à votre invité. En particulier M. Cohen, que j'apprécie son intervention et son expertise.
Ah bah oui, c'est sûr. Et puis, on a souvent M. Cohen avec nous, donc ouais. Vous pouvez en profiter largement. Est-ce que vous avez une question?
Oui, d'abord, je voulais faire un petit commentaire.
Oui.
C'est très important aussi. C'est un accord, même s'il est caduque, un demi-échec, c'est une avancée parce que la Corée du Nord veut sortir de cette impasse et c'est enclos. Et les États-Unis, surtout Trump, peut-être que ce qui subit à l'intérieur de son pays avec ces scandales-là, et s'est montré plus puissant et voilà, tourner la bâche et s'opposer par rapport à tout ce qui se passe à l'intérieur. Et donc, tourner la page et montrer une image plus significative et plus bonne par rapport à toutes ces accusations. Mais la question que j'aimerais poser, d'abord, c'est est-ce qu'un jour on peut penser que la Corée du Nord renonce totalement à l'arme atomique, même si c'est pacifique, est-ce qu'elle doit, on doit penser un jour qu'elle renonce? Et quel est l'intérêt de la Chine dans tout ça? Est-ce qu'il y a une main invisible de la Chine qui est derrière la Corée du Nord ou il y a toujours de... qui est derrière la Corée du Nord.
Alors, Emilio Viano, la première question peut-être, hein, est-ce qu'on peut effectivement espérer un jour voir cet accord aboutir et surtout, est-ce que la Corée du Nord va un jour accepter d'arrêter ses activités nucléaires?
Oui, c'est naturellement possible et on espère qu'on aura du succès dans ça, mais ce n'est pas une chose qu'on peut faire si rapidement comme voulait le président Trump ou il pensait qu'elle pouvait le faire. Je pense que on pourrait penser peut-être même d'une décennie, 10 ans de négociations, de petits pas, de concessions, de bâtir plus en plus de confiance. Ce n'est pas une chose qu'on peut faire avec 2-3 poignées de main et des rencontres dans des lieux exotiques, de jours avec des dîners. Il n'est pas possible de le faire comme ça. On doit vraiment avoir un travail de sous-fond et on doit aussi penser que la Corée du Nord ne veut pas cesser d'avoir d'armes atomiques. Parce que pensons où il est géographiquement. Il est près de la Chine et de la Russie, qui ont une frontière avec la Corée du Nord, les deux. Il y a les Américains, 30 000 soldats, les parapluies nucléaires, bien des armes de tout type dans la Corée du Sud. Pas loin, il y a le Japon, un ennemi traditionnel, un pouvoir colonial très, très cruel contre la Corée en général, qui a aussi
aussi une armée plus forte maintenant, qu'il veut reprendre son rôle, pas seulement de défense, mais aussi d'attaque. Et c'est une situation très difficile pour eux-mêmes, parce que c'est un pays très petit, il n'y a pas beaucoup de richesses, d'industrie, ils peuvent être conquis pas difficilement, particulièrement par une coalition de ces pays qui sont très très puissants, et pour eux c'est vraiment la garantie d'un certain niveau de sécurité, particulièrement pour le régime même, et pour la duration du régime, que c'est déjà une question de famille, n'est-ce pas, du grand-père au père, et maintenant à Kim Jong-un, et naturellement je suis sûr, il espère de le transmettre lui aussi à d'autres. Ça signifie qu'ils doivent aussi avoir une menace croyable contre son propre peuple. S'il y a une révolution, s'il y a un désaccord, s'il y a des efforts pour un changement politique. Alors, je crois que de son point de vue, n'avoir pas des armes atomiques signifie d'être complètement nu, d'avoir rien pour se défendre. Et pour ça, ce n'est pas acceptable. Je crois qu'il n'est pas acceptable complètement maintenant. Peut-être il y aura une possibilité avec beaucoup de négociations de réduire l'arsenal nucléaire. Il y a aussi une question de prestige. La Corée du Nord veut être dans le club des pays qui ont les armes atomiques. C'est un club naturellement très spécial et prestigieux, si vous voulez, de ce point de vue, et le met au même niveau des États-Unis, de la Chine, de la Russie, de la France, de Pakistan, de l'Inde, d'Israël. C'est un club très prestigieux, et pour eux, ça a beaucoup de valeur.
Oui. Alors, Herman Cohen, hein, le deuxième volet de la question d'Hassan Omar, qui vous aime beaucoup apparemment, sur la Chine. Il se demande quel est le rôle de la Chine dans ce dossier, et est-ce que quel soutien la Chine apporte à la Corée du Nord?
Cette question est très importante pour la Chine. Les gens qui sont beaucoup plus jeunes que moi ne se rappellent pas de la guerre de Corée en 1950. À l'époque, les soldats américains sont arrivés à la frontière de la Chine. Et la Chine a repoussé les Américains. C'était une guerre terrible. Mais les Chinois n'ont pas oublié ça. Et la grande peur de la Chine, c'est que la Corée du Sud et les Américains arrivent sur les frontières de la Chine par la voie politique. Donc, ils préfèrent que le régime de Corée du Nord reste au pouvoir. Et ils vont tout faire pour aider le régime, la famille de Kim Jong-un à rester au pouvoir. Mais la grande menace pour cette famille sont des menaces économiques. L'économie est en train de s'intégrer. Et il y aura un soulèvement du peuple s'ils ne peuvent pas manger, s'ils crèvent de faim. Donc j'espère que la Chine va comprendre ça, va aider la Corée du Nord à avoir un développement économique.
Et justement, hein, la Chine a appelé aujourd'hui à discuter à l'ONU de la levée partielle des sanctions économiques frappant la Corée du Nord. Herman Cohen, que peut-on attendre de cette mesure, très rapidement?
Oh, ça ne va pas marcher, parce que c'est toujours lié au nucléaire de Corée du Nord. Et les États-Unis vont poser leur veto s'il n'y a pas un mouvement sur le bombe nucléaire.
Écoutez, messieurs, merci beaucoup. Ce seront les mots de la fin. Merci à tous nos auditeurs. À la production, c'était Firmin Koyaweda et Sims Loumami. Morgane Guerriac au micro. À bientôt.